Chers amis de la préparation au mariage, bonjour. J'espère que vous vous portez bien autant que faire se peut dans ce temps particulier d'épidémie. Puisque notre réunion n'a pas pu avoir lieu, je tenais à vous transmettre l'enseignement que vous auriez dû entendre à travers cet enregistrement. Je vous propose d'abord de faire une petite reprise par rapport à la séance précédente. Nous avions vu ces trois chapitres, je veux, je te reçois, je me donne à toi. Nous avions établi cette distinction entre envie, désir et volonté, où l'on avait signifié que la volonté, c'était un désir qui s'était façonné dans le temps et qui prenait les moyens d'advenir. Rappelez-vous l'image de la poterie que j'avais faite. Une idée identifiée, elle prend forme, et pour qu'elle conserve cette forme, on la passe au four, on prend les moyens pour que ce désir se concrétise. À ce moment-là, on peut parler de volonté véritable. Et donc se pose vraiment la question de savoir, voulons-nous notre mariage? Sommes-nous prêts à prendre les moyens qui lui permettront, un, d'advenir, et deux, de se perpétuer? À travers le texte du jeune homme riche, on avait pris conscience que la première libération qui était faite était de savoir que l'on était attaché. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser le désir, de le transformer en volonté? Avoir une lumière là-dessus est quelque chose de précieux. Nous avions abordé le fait aussi que ce jeune homme qui repart tout triste n'a pas pensé à demander de l'aide. Or, dans notre mariage, nous aurons besoin certainement d'aide, parce que nous sommes imparfaits et pécheurs, il y aura forcément des ajustements. Et donc nous aurons besoin évidemment de l'aide de notre conjoint, mais nous pouvons faire aussi appel à une aide extérieure. On a fait beaucoup de progrès en matière de conseil conjugal et familial, et également demander le secours de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés en cette matière d'aide d'avoir le regard ouvert sur les dimensions qui s'offrent à nous. Dimension humaine, dimension psychologique, dimension spirituelle, sans en négliger aucune. Comprenons bien que le fait de demander de l'aide n'est pas le signe de l'échec de notre mariage, mais au contraire un acte de sagesse pour pouvoir le perpétuer. Je le répète, entre deux êtres imparfaits et pécheurs, il est normal qu'il y ait des ajustements. Nous avions évoqué aussi la question « Suis-je libre de t'épouser ?» C'est une vraie question de savoir si ma présence par rapport à l'autre, ta présence par rapport à moi, est un facteur de liberté. Je suis plus moi-même en ta présence. Je deviens plus moi-même grâce à ta présence. Et au contraire, il y a une question à se poser, si j'ai l'impression d'être manipulé par toi, si j'ai l'impression d'être contraint, étouffé par toi. Le mariage doit être aussi un lieu où l'accès à ce que nous sommes est déployé par l'union à l'autre, par la présence de l'autre. La question de la liberté, celle doit être présente dans le mariage, hein. C'est pas parce qu'on a commandé le traiteur, qu'on a envoyé tous les faire-part, que forcément, ça y est, on est déjà engagé. C'est le lieu décisif n'est pas la commande au traiteur, le lieu décisif est la paix de votre cœur, la volonté de vous engager, parce que vous y voyez votre bien en toute vérité, vous y voyez aussi le bien de l'autre en toute vérité. Nous avions évoqué encore la question du jardin secret. Puis-je faire des choses sans que tu le saches? On avait évoqué le fait que ce jardin secret peut être tout à fait légitime. On ne peut pas faire toutes les choses ensemble, on ne peut pas tout se raconter, matériellement ce n'est pas possible. En revanche, il était nécessaire de se donner la peine de nourrir la confiance. Oui, je peux te laisser faire des choses seul parce que j'ai confiance en toi. Et j'ai confiance en toi parce que tu as nourri cette confiance. D'où l'importance de demander à l'autre et de lui signifier aussi ce dont nous avons besoin pour être en confiance. Tu t'absentes, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Combien de fois j'ai besoin que tu m'appelles si tu pars en mission loin à l'étranger? De quoi ai-je besoin pour être en confiance j'ai besoin que tu prennes la peine de donner ces signaux. Donc un équilibre à avoir, se donner les moyens de la confiance. Par ailleurs, on avait aussi évoqué le fait de se souvenir que ce qui m'advient à moi aura forcément un retentissement sur le couple. Parce que le couple, c'est une union des deux, donc ce qui arrive à l'un, forcément, influe sur l'équilibre du couple. On avait parlé de cette, je vous avais donné cet exemple de la bascule, quand l'un monte, l'autre descend, il n'y a pas de possibilité que l'un monte sans que l'autre n'en soit pas affecté. Je vous avais mis en garde, enfin, par rapport à cette idée, ce que je fais et que tu ne connais pas ne te fait pas de mal. Où il y a vraiment quelque chose de malicieux, de mauvais dans cette idée que il y a une vie séparée. J'ai en quelque sorte une double vie. Il y en a une qui ne te concerne pas et à laquelle tu n'as pas accès. Se placer dans cette position-là, c'est vraiment sortir de l'alliance. On ne peut pas réfléchir à faire une chose seule en disant « mais ce que tu ignores ne te fait pas de mal ». Non, l'autre n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails, mais il sait justement que sa présence est portée par le cœur de l'autre, quand bien même il est absent, quand bien même il fait des choses sans que l'autre soit présent. Autre point de rappel, se souvenir que recevoir l'autre, c'est accueillir son passé, ses faiblesses, et qu'au jour de leur mariage, les époux ne savent strictement rien de l'avenir. Et j'avais évoqué à ce sujet une image, la voiture et sa caravane. Le fait qu'au moment où on se marie, la seule chose qu'on puisse savoir, c'est que chacun de nous, nous avons une caravane avec des choses de notre passé, de notre personnalité qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure. Il y a des ressources, des trésors, mais aussi des casseroles. Et se souvenir que, je dirais, la caravane, si elle nous oblige à adapter notre allure, parce que quand ça monte, ça tire, et quand on descend, ça pousse, si elle nous oblige à adapter notre allure, elle ne nous empêche pas de rouler. Et donc, il y a cette ouverture, l'un par rapport à l'autre, et même par rapport à soi. C'est vrai, nous allons découvrir des choses. Et quand bien même nous nous connaissons depuis longtemps, il y a des choses nouvelles que nous allons découvrir, qui vont nous surprendre, qui vont nous bousculer. Mais elles ne nous empêchent pas de rouler, elles ne nous empêchent pas d'avancer. J'avais ensuite attiré votre attention sur les moyens pour fortifier notre amitié. Essayez de repérer quelles étaient les activités qui fortifiaient votre amitié. J'avais pris l'image du canoë-kayak où les deux trouvaient leur compte, l'un par l'exercice physique qui était fait en présence de l'autre et l'autre par la joie de la discussion sur le chemin du retour. Et donc je vous invitais à trouver quelles sont ces activités qui aujourd'hui fortifie votre amitié, votre amour, votre complicité, pour être vigilant, au, le cas échéant, si cette activité devait disparaître, pour avoir le souci de la remplacer, qu'il y ait bien un lieu où vous fortifiez votre amitié. Autre point que nous avions abordé, la question de pouvoir transformer l'autre. J'avais pris l'image d'une pierre en disant qu'on peut polir une pierre précieuse, mais pas changer sa nature. On ne fera pas d'un rubis un saphir ou une émeraude. Eh bien, de la même façon, on ne changera pas la nature de l'autre. Il y a bien des choses qui peuvent se polir, qui peuvent se lisser, mais on n'en changera pas la nature. Et donc, si notre fiancé nous dit et nous explique qu'il y a un point qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire que ne pas le vivre avec lui, ne pas le prendre avec lui, c'est comme si on voulait lui arracher une jambe, lui couper une jambe, donc ce ne sera pas possible, il faut y prêter attention. Vraiment faire cette distinction entre ce qui serait de l'ordre du confort, on peut négocier sur le confort, mais si c'est une chose où on m'arrache une jambe, ce n'est pas possible. Je crois que j'avais évoqué ce cas du grand cuisinier, qui disait « mais si tu m'épouses, tu m'écoupouses avec ma cuisine et avec ses horaires, ma vie c'est ma cuisine », et qu'il n'avait qu'à offrir un seul soir par semaine. Il fallait donc que la fiancée soit prête et se dise « est-ce que je vais être heureuse avec cet unique soir par semaine ?» Parce que si oui, allons-y, sinon Ce serait une illusion de dire, mais j'arriverai bien à le faire changer et à arracher 2 ou 3 soirs de plus. Nous avions évoqué encore que la vraie joie pour la personne humaine, c'est de se donner, et que ce n'était pas quelque chose d'instinctif. L'enfant de 6 ans a pour joie d'amasser le plus de choses possibles. Regardez-le en train d'essayer de piquer les jouets de ses camarades au jardin. Il veut amasser. C'est plus tard que l'on fait cette expérience qu'il y a une joie à donner, et une joie même plus grande. Une chose que l'on remarquait également, c'est que le repliement sur soi conduit à la tristesse, et que c'est en se donnant à l'homme que Jésus donne à l'homme d'aimer comme lui, Jésus, aime. Voilà le récapitulatif que je voulais faire de notre séance précédente.